Bonjour Tiffen, très bon après-midi à vous. Et de notre côté, on termine notre semaine américaine en analysant le thriller politique House of Cards.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes en pleine politique américaine depuis lundi dans la Compagnie des œuvres, avec quatre fictions qui racontent pour certaines la défiance du peuple envers les élites, mais également la peur de l'arrivée au pouvoir d'un homme ou d'une femme autoritaire, ou encore le spectre de l'antisémitisme et du racisme, tout cela allant chercher du côté de l'inconscient et du refoulé états-unien, comme nous l'avons vu déjà au cours de nos trois premiers épisodes, disponibles en réécoute sur l'application Radio France et sur RadioFrance.com. Alors ces quatre fictions, prenons-les dans l'ordre. Lundi, Serge Chauvin était à ce micro pour évoquer notamment le rapport du cinéaste d'origine italienne Frank Capra avec son pays d'accueil qu'il a aimé plus que tout. Mardi, c'est Paul Lévy qui est venu disséquer pour nous Le complot contre l'Amérique, roman et uchronie de Philippe Ross, imaginant l'arrivée de l'aviateur antisémite Charles Lindbergh à la présidence des États-Unis. Enfin, hier, nous sommes revenus sur le livre et le film controversé Autant en emporte le vent, relu aujourd'hui avec des yeux dessillés sur les préjugés racistes qu'il véhicule. Et aujourd'hui ? And we teach all of them to be revolutionary politicians.
Beaucoup se sont imaginés républiques et principats dont on n'a jamais vu ni su qu'ils existaient vraiment. En effet, il y a si loin de la façon dont on vit à celle dont on devrait vivre, que celui qui laisse ce que l'on fait pour ce qu'on devrait faire apprend plutôt sa ruine que sa conservation. Car un homme qui voudrait en tout point faire profession d'homme bon, il faut bien qu'il aille à sa ruine parmi tant d'autres qui ne sont pas bons. Aussi est-il nécessaire à un prince, s'il veut se maintenir, d'apprendre à pouvoir ne pas être bon, et d'en user et de n'en user pas selon la nécessité.
Extrait du Prince de Machiavel, lu par Georges Claes pour introduire notre émission sur cette série machiavélique qu'est House of Cards et dont nous parlons aujourd'hui avec vous, Emmanuel Taïeb. Bonjour.
Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange.
Vous êtes professeur de sciences politiques, auteur d'un premier livre sur la guillotine aux éditions Belin en 2011, puis d'un second sur House of Cards, cette série sur laquelle vous avez rédigé et laissé House of Cards, le crime en politique, paru en 2018 aux presses universitaires de France. Alors quand on regarde un petit peu ces deux titres, on se dit que votre intérêt est à l'intersection de deux choses, la politique d'un côté et la violence de l'autre. Est-ce qu'on se trompe ?
Non, on se trompe pas. Je pense que la question de la violence politique est une question centrale, qu'elle soit dans les régimes autoritaires ou au cœur des démocraties. Donc je pense qu'il faut l'interroger et la dévoiler, en comprendre les motivations, en comprendre les causes. Et donc évidemment, une série comme House of Cards, qui place la violence au cœur du politique, me paraissait tout à fait centrale pour travailler cette question-là.
Donc on va pas tellement parler de guillotine aujourd'hui, mais plutôt des crimes du président Underwood dans House of Cards. C'est la première série qui a été entièrement produite par la plateforme Netflix. C'était en 2013. Un coup d'essai pour Netflix et puis tout de suite un coup de maître.
Ils ont, d'après ce qu'on sait, en tout cas de ce qui a été raconté par les acteurs et les producteurs, tout le monde a bénéficié d'un grand climat de liberté, d'écriture, d'idées, de tests, potentiellement j'imagine aussi d'argent. Donc Netflix a mis beaucoup de choses là-dessus, en prenant un certain nombre de risques, mais aussi en étant un peu couvert, au sens où cette série-là, c'est aussi l'adaptation américaine d'une série britannique, qui est une série de la BBC qui avait été faite dans les années 90, qui est remarquable, qui est beaucoup moins connue en France. 3 saisons de 4 épisodes chacune, et cette série elle-même, britannique, était l'adaptation de 3 romans d'un auteur anglais, d'un ancien homme politique en fait, qui s'appelle Michael Dobbs. Donc,
on peut dire un mot sur lui peut-être, parce que c'est intéressant de comprendre son parcours aussi.
Il est Michael Dobbs, il est né en 1948, c'est un homme politique professionnel, mais il a jamais été élu en réalité. Il fait partie de ce qu'on appelle les collaborateurs parlementaires, les conseillers. Et il a rejoint le parti conservateur assez vite et il est devenu...
Donc Thatcher en fait.
Voilà, il a été conseiller spécial de Margaret Thatcher, puis conseiller du groupe conservateur, puis secrétaire général de ce groupe au Parlement. Donc c'est quelqu'un qui a été au plus près du pouvoir, qui a vraiment fréquenté Thatcher, qui est un conservateur pur jus, mais qui a quand même été frappé par deux choses, la brutalité de Margaret Thatcher dans les rapports quotidiens, pas seulement comme femme politique, mais dans les rapports avec ses collaborateurs en permanence, donc vraiment quelqu'un de voilà, agressif et de violent. Et puis Michael Dobbs, il a été très frappé par la violence politique de son époque, et notamment les attentats de l'IRA. Il y a eu un attentat assez colossal contre un hôtel à Brighton en 1984, je crois, où se tenait un congrès du Parti conservateur qui visait en fait à tuer Margaret Thatcher et qui a tué deux membres éminents du Parti conservateur et deux épouses qui accompagnaient d'autres membres. Et Michael Dobbs était là. Et donc il a vraiment perdu deux personnes qu'il connaissait très bien dans cet attentat.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'il y a peut-être un parallèle à faire entre Frank Underwood, le président de House of Cards, Francis Urquhart, donc le président dans la série anglaise, et Margaret Thatcher.
Oh, c'est une hypothèse qui peut être tout à fait explorée. Il y a effectivement l'idée de quelqu'un d'arriviste, de quelqu'un de puissant, de quelqu'un qui va utiliser les leviers du pouvoir. La comparaison peut s'arrêter là parce qu'il y a vraiment chez Underwood et Urquhart une espèce de volonté de survivre absolument, on en parlera, et de survivre à tout prix avec un oubli complet de l'intérêt général. Thatcher a gouverné à sa manière, mais elle a gouverné.
Alors c'est une série qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Même le président de l'époque, Barack Obama, l'a regardé apparemment.
Ouais, il était apparemment fan. Il a fait référence à la série plusieurs fois. Il y a des petites pastilles vidéo que Obama postait, notamment une pour un 1er avril où il fait une espèce d'accent un peu étrange qui nous échappe, qui est peut-être l'accent de Caroline du Sud, et où il dit qu'il est l'état d'élection de Underwood, et il dit c'est Frank Underwood qui m'a appris ça. Et donc il y a évidemment une espèce de porosité très intéressante.
On n'a pas envie de se réclamer de Frank Underwood quand on est président des États-Unis.
Ça paraît étrange. Il faut imaginer qu'il le fait peut-être en contrepoint. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de dire que c'est une série qui a irrigué la culture populaire et la culture politique américaine jusqu'au président lui-même, qui n'a pas besoin de se réclamer d'un président fictionnel et qui le fait pourtant.
Oui. Cette porosité, on va en reparler parce que c'est beaucoup là-dessus que vous travaillez justement, Emmanuel Taïeb. Un mot aussi sur les créateurs américains. Donc c'est Fincher, le cinéaste de Seven ou encore de Fight Club, et Bo Willimon, qu'on connaît moins, mais qui est quelqu'un qui a été élevé par des parents militaires. Alors est-ce que ça c'est important?
Ça a l'air de compter, en tout cas dans sa formation. J'ai le sentiment qu'il a injecté dans la vie politique quelque chose de militaire ou quelque chose de martial, ou en tout cas quelque chose de violent. C'est quelqu'un qui s'est assez vite intéressé à la politique. Il est dramaturge. Il a fait un premier, parmi tout ce qu'il a écrit, il a fait un premier scénario qui s'appelait Les Marches du Pouvoir et qui a été adapté en film par George Clooney en 2011. Et puis ensuite il s'est lancé dans l'écriture de House of Cards, donc avec ce qu'on disait tout à l'heure, le filet de secours qui avait quand même les romans et la série britannique. Mais il a inventé beaucoup de choses, et je pense que sa préoccupation était de travailler sur la nature des hommes et des femmes politiques et de se demander si au fond nous n'étions pas, alors c'est une hypothèse évidemment forte et pas forcément réelle, mais si nous n'étions pas gouvernés par des tueurs, ou si nous n'étions ou des meurtriers, ou autre élément, autre hypothèse, est-ce que ceux qui nous gouvernent, ceux et celles qui nous gouvernent, ne finissent pas par devenir des tueurs parce que l'exercice du pouvoir les conduit à la violence.
Donc on va creuser cette question suspense. Un mot sur Kevin Spacey, l'acteur principal avec Robin Wright. Kevin Spacey joue le président des États-Unis. En 2017, il a été accusé d'agression sexuelle. Il a donc fallu retourner la dernière saison Est-ce que depuis, il a été accusé? Est-ce qu'il a été jugé?
Non, il n'y a pas eu de procédure judiciaire et un certain nombre d'accusations sont tombées ou en tout cas n'ont pas donné lieu à un procès. Donc à ma connaissance, pour l'instant, il n'a pas été jugé. En revanche, il a été écarté de tous les projets qu'il avait en cours. Il y a même un film qui a été où les scènes dans lesquelles il apparaissait ont été retournées sans lui. Il a été remplacé par Christopher Plummer. Alors évidemment, ça a posé un problème pour la série parce que lui était non seulement acteur mais producteur exécutif avec Robin Wright qui joue Claire Underwood et David Fincher que vous avez mentionné. Donc il était non seulement acteur mais un des éléments qui fabriquait, qui participait de la fabrication de cette série. Et donc il a été effectivement très vite évincé à la suite de ces révélations. Il a fait un tweet un peu maladroit, bon on en reparlera peut-être, mais en tout cas ça a évidemment posé un problème énorme pour la série puisque la sixième saison devait l'inclure, qu'elle ne l'a pas inclus et que bon voilà c'est la dernière saison. On sent qu'elle a été tournée un peu en catastrophe, qu'elle a été faite à la hâte, que les scénarios sont un peu moins bons. Il faut aussi rappeler que Bo Willimon a quitté la série après la quatrième saison, ce qui a pu entraîner une relative baisse de qualité. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu pour la sixième saison, qui est pas inintéressante, qui a beaucoup de défauts, mais qui a des qualités, en tout cas si on veut y aller de manière un peu analytique, qui montre aussi ce que veut dire être une femme présidente, puisque c'est Claire Underwood qui prend le pouvoir. Donc voilà, est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a un rapport genré ou un exercice genré du pouvoir? Mais évidemment, sans Kevin Spacey, la série est un peu évidée d'elle-même.
Mais du coup, il y a une porosité entre l'intérieur et l'extérieur. Tout d'un coup, un événement extérieur à la série va modifier la série elle-même.
Oui, l'affecte directement. Donc Underwood est considéré comme mort dans des conditions un peu étranges à la sixième saison. Oui, donc il y a évidemment une influence de ce qui se passe dans le réel sur la fiction, ça pèse.
Maintenant, voici l'hiver de notre amertume transmuée en un été superbe. Par ce soleil York. Et tous les nuages qui pesaient sur notre maison sont enfouis au plus profond de l'océan, disparus. Nos fronts sont maintenant ornés des beaux lauriers de la victoire. Nos pauvres armes ébréchées sont devenues des trophées, nos tristes alarmes sont devenues des fêtes endiablées. Le lugubre visage de la guerre a laissé place à des traits souriants. Et maintenant, au lieu de monter de fougueux destriers pour effrayer les âmes des peureux adversaires, ils cabriolent lestement avec des dames libertines, au son lascif et harmonieux d'un luth. Même moi.
Alors ça, c'est l'ouverture de Richard III avec cet extrait du monologue de Gloucester dans le film Looking for Richard d'Al Pacino. C'est une série dont vous dites et dont on a beaucoup dit, Emmanuel Taïeb, qu'elle était d'inspiration shakespearienne et qu'elle regardait justement du côté de Richard III. Qu'est-ce qui peut rapprocher le personnage de Richard III avec celui du président Frank Underwood?
Beaucoup de choses. Une âme corrompue, le corps l'est moins. Richard III est difforme, il ne faut pas l'oublier. Ça s'inspire de Richard III et de Macbeth. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Il y a l'idée d'un basculement dans la violence pour des raisons purement politiques qui ensuite est irrémédiable et irréversible. La fameuse phrase qu'on trouve dans les deux pièces, Macbeth et Richard III, je suis allé si loin dans le sang. Ouais. C'est-à-dire effectivement, j'ai atteint un point qui est maintenant indépassable. J'ai fait le mal, j'ai tué des adversaires, j'ai pu tuer des enfants, j'ai tué des gens qui me faisaient confiance, j'ai tué ma maîtresse. Underwood tue sa maîtresse, il fait tuer des gens. Donc c'est quand même, vous parliez de thriller politique effectivement en introduction, on est en présence d'une série où le meurtre domine. Et donc, Shakespeare a énormément travaillé cette question de la corruption morale, de la corruption de l'âme et de la corruption et de la violence de ceux qui gouvernent. Donc House of Cards repart complètement de ça. Il y a des liens très forts. Underwood est un Richard III moderne, y compris dans le fait qu'il est finalement assez peu dans le questionnement. Voilà. Mm-hmm. Son homologue de la série britannique, Urquhart, se pose des questions. Il est hanté par les assassinats, en tout cas par un assassinat qu'il a commis, puisqu'il tue sa maîtresse en la précipitant du haut du palais de Westminster. Honnêtement, Underwood est un peu moins hanté. Il y a quelques scènes où voilà, des fantômes reviennent un peu le voir. Il y a aussi des fantômes chez Shakespeare. Mais il va de l'avant sans se poser trop de questions morales.
D'ailleurs, on peut se demander quel est le point de vue des créateurs de la série sur ces deux personnages, de Claire et Frank Underwood. Ils ne sont pas condamnés totalement.
Ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire que le point est de savoir s'il faut jusqu'à quel point on accorde du crédit à la manière dont les créateurs eux-mêmes voient leur série et voient leurs personnages. Dans le cadrage que les showrunners, pour le dire avec le terme américain, que les créateurs veulent donner, ils expliquent qu'ils ont voulu travailler sur les émotions des personnages, sur un couple confronté au pouvoir, sur la question du mariage et de la survie d'un mariage à l'épreuve du pouvoir, et évidemment, bien sûr, sur la violence. La question émotionnelle, elle n'est pas exactement traitée comme ça dans la série. C'est-à-dire que je pense qu'il faut un moment s'éloigner du cadrage proposé par les auteurs. C'est pas exactement une série sur le mariage, même si ça court. C'est pas exactement une série sur les émotions que pourraient ressentir des hommes politiques au pouvoir. Oui, ils ont des émotions. En même temps, les deux personnages, les trois, même si on ajoute leur adjoint Doug Stamper, sont des personnages qu'on peut trouver quand même émotionnels, assez froids, calculateurs, stratèges. Ils sont pas habités par des émotions ou ils sont pas habités par des dilemmes moraux qui les verraient s'angoisser à l'idée d'exercer le pouvoir.
Et cette froideur, elle se retrouve dans la manière de filmer, dans la manière de montrer ces personnages.
Tout à fait. David Fincher, qui réalise les deux premiers épisodes, a imposé un style qui a ensuite un style de réalisation qui a ensuite été repris quasiment par l'ensemble des gens qui réalisent. Et il y a des gens très 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 talentueux qui réalisent les épisodes, c'est-à-dire plutôt de la caméra fixe, plutôt une mise en scène relativement stable. Il n'y a pas de steadicam, il n'y a pas de mouvement.
Donc sobriété.
Un éclairage vraiment en clair obscur. C'est l'éclairage de Fincher, c'est-à-dire on est plutôt dans les gris, dans les verts pâles, dans les jaunes. Donc ça crée une ambiance vraiment glauque, hein, qui est le vrai terme, enfin qui veut dire vert. Donc il y a une ambiance un peu verdâtre dans la série, qui est là aussi pour signifier à la fois quelque chose de crépusculaire et quelque chose de profondément atteint. Il y a des plans dès le générique, il y a des plans sur des rats qui sont non loin du Capitole à Washington. Il y a la même idée dans la série britannique. Donc l'idée que tout repose, Urquhart dit, enfin Michael Dobbs dit, on a oublié, mais Westminster a été construit sur un marécage et par moments ça remonte. Et donc effectivement c'est la même idée, hein, le cloaque remonte sur Washington et on le matérialise par cette lumière-là et par d'autres éléments de réalisation. Donc une réalisation très sobre, pas du tout clipesque et qui donc contraste avec d'autres séries contemporaines. Là il y a vraiment le choix de faire quelque chose, je dirais même de très cinématographique. C'est une série très cinématographique.
Alors évidemment cette série a reçu aussi des critiques de la part du monde politique. On parlait lundi de Monsieur Smith au Sénat, qui a été assez mal accueilli bien entendu par les sénateurs. Là au départ on a considéré que quand même la politique américaine, c'était pas aussi noir. Et puis Trump est arrivé. Et là, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui ressemble un petit peu plus, donc non que Trump soit un assassin, mais qui ressemble un petit peu plus à ce qui est décrit dans la série, Emmanuel Taïeb.
Il y a deux éléments. C'est une série qui est apparemment une série politique, qui ne l'est pas réellement, qui est de mon point de vue plutôt une série fantastique et qui donc a énormément de mal à montrer le vrai travail politique. Et donc évidemment, du point de vue de la réception d'hommes politiques, ils vont dire, mais en fait, on fait pas du tout ça. Ça correspond pas du tout à ça. Il y a des réunions, il y a du travail juridique, il y a de la mise en place de la loi.
Ça montre un peu ça quand même aussi, notamment dans les premières saisons.
Ça le montre un peu, mais on voit beaucoup le congrès dans les deux premières saisons. On le voit moins ensuite parce qu'on se concentre plutôt sur le jeu au sommet et le jeu de massacre. Mais il y a plein de choses qui sont pas filmées parce qu'elles sont pas très cinégéniques. Des réunions, des rapports de force, des politiques publiques qui sont très longues.
Que d'autres séries seraient
pas montrées. Que d'autres séries font un peu mieux. Je trouve que, par exemple, Baron Noir montre des négociations européennes sur plusieurs épisodes, ou montre une tentative d'Europe écologique entre la présidente Doran II et le chancelier allemand. Donc il y a aussi ces éléments-là, c'est-à-dire faire vivre des idées et essayer de faire vivre des politiques publiques. Et puis, effectivement, donc il y a eu des remarques critiques. Et puis, effectivement, Trump est arrivé et la réalité a, en quelque sorte, dépassé la fiction ou rattrapé la fiction, même si les personnages, le personnage d'Underwood et le personnage de Trump ne se ressemblent pas à ce point. En tout cas, il y a eu effectivement une forme d'outrance à la présidence américaine, une forme de violence verbale, des formes d'injures, des choses qui sortaient complètement des coutumes et du jeu politique habituel américain.
Mais alors là, on peut se poser la question, quelle est la part de réalité qu'on trouve dans cette série ? Rappelons que Willimon a travaillé pour des campagnes électorales dans sa jeunesse, donc il est quand même issu de ce milieu-là. Et qu'est-ce qui est totalement inventé, totalement fictionnel ?
Il y a plein de choses qui sont très réalistes, ou en tout cas qui sont très plausibles, qui concernent la communication des candidats, la manière de répéter des discours, de monter des plateformes politiques, d'aller à la rencontre des électeurs dans une circonscription, des manières de faire, des manières d'être, des discours spécifiques. Tout ça est quand même très bien documenté. La manière de faire pression sur des membres du Congrès, le moment de haute intensité politique qui est le moment des élections, tout ça est extrêmement bien montré. Et on voit que ça a été vécu de l'intérieur, et c'est quand même l'une des qualités de cette série, l'une des qualités des séries politiques, c'est-à-dire c'est des montées en intensité. On crée quand même du suspense sur des éléments qui n'en ont pas nécessairement, qui sont des choses de la vie politique. Et puis évidemment, tous les coups politiques, tout ce qu'on peut inventer comme coup politique pour l'emporter sur ses adversaires. Ce qui est moins réaliste, c'est l'espèce de temporalité tout le temps accélérée qu'on retrouve dans cette série et dans beaucoup de séries politiques. C'est-à-dire que chaque épisode, il faut prendre une décision, sinon il y a une catastrophe. C'est pas du tout la temporalité politique, qui est une temporalité politique longue, qui correspond pas du tout. Il y a évidemment tout ce qui renvoie à la dimension fantastique, on en parlera, au meurtre. Le meurtre, je l'espère, n'est pas si omniprésent en politique, puisque la politique, théoriquement, c'est le meurtre symbolique, c'est-à-dire qu'on est dans un système démocratique théoriquement pacifié, et que donc pour tuer son adversaire, on va le tuer soit par la rhétorique, comme à la cour du roi, soit par l'élection, en ayant plus de voix que lui. Là, évidemment, les coups joués par Underwood sont souvent des coups infrapolitiques pour vraiment tuer un adversaire physiquement.
Mais est-ce que Donald Trump ne relève pas davantage de la fiction que Frank Underwood, qui est un personnage qui a fait pendant 20-22 ans toute sa carrière au Sénat, qui est un professionnel de la politique, alors que Trump est un professionnel de l'immobilier et de la télévision?
C'est quelque chose que la série n'avait pas anticipé. La série part sur l'idée que la politique est faite par des hommes politiques, et que donc effectivement Underwood, au début de la série, il a 22 ans de maison, il est chef de la majorité, donc la série, de ce point de vue-là, n'a pas pu annoncer Trump. En revanche, alors Trump est-il fictionnel? En tout cas, il est improbable dans la manière dont il a fait irruption dans la vie politique américaine, avec un background qui n'était pas du tout un passé d'homme politique. Il vient de l'immobilier, il vient d'une famille qui a fait fortune, ce qui n'est pas le cas d'Underwood, par exemple. Il fait Trump un hold-up sur le parti républicain, qui au début n'en voulait pas, et puis qui se dit, si lui est capable d'y aller et de remporter l'élection, allons-y. Et ensuite, il va avoir une manière très très particulière et très improbable de mener la politique. Tous les témoignages qu'on a en interne de la Maison Blanche laissent à penser qu'il y a une impréparation totale, qu'il y a une immaturité totale, qu'il y a une impulsivité totale qu'on peut voir dans ses tweets. Et donc là, effectivement, c'est quelque chose que cette série-là, de Netflix, House of Cards, n'avait pas du tout anticipé, ni non plus d'autres séries politiques comme The West Wing, dont on parlera, mais où effectivement l'irruption d'un être politique spécifique comme Trump n'était pas du tout anticipable.
Même si la question qu'on peut se poser est déjà d'ores et déjà abordé un petit peu ce thème, c'est est-ce que ce genre de série ne permettent pas à un personnage comme Trump d'arriver au pouvoir? Est-ce que justement le fait de pousser la fiction au maximum ne permet pas aux électeurs d'envisager des présidents sortant de la norme habituelle?
C'est une vraie question, et c'est difficile de répondre ça. C'est une vraie option, c'est une vraie possibilité, au sens où les séries préparent le terrain pour des choses. Mais on le sait souvent rétrospectivement, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont données dans les séries, qui vont pas se réaliser, qui vont préparer le terrain pour rien. C'est une option, ça peut aussi venir conforter des préjugés. Donc il y a des gens à qui on a montré House of Cards et qui ont dit, oui, c'est ça la politique, c'est comme ça que ça se passe, de toute façon c'est tous des pourris et ils tuent leurs adversaires. Est-ce que la série a préparé le terrain pour Trump? C'est très difficile à dire. Honnêtement, je suis pas sûr de le penser, parce que moi, je vois plutôt cette série comme une lanceuse d'alerte. C'est-à-dire, alerter sur ce qui se passe si on ne contrôle pas, si on arrête de contrôler nos hommes politiques et si on arrête de contrôler nos élus, on va se retrouver avec des tyrans. C'est un vieux débat de la théorie politique et de la philosophie politique depuis des siècles. Et donc, la série est dans cette lignée-là. Donc, si elle se voulait lanceuse d'alerte, ce serait vraiment à son corps défendant qu'elle aurait permis l'arrivée de Trump, puisqu'au contraire, elle voulait mettre en garde contre des hommes politiques corrompus moralement.
D'ailleurs, les showrunners se sont distanciés de Trump une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Non pas qu'ils étaient proches de lui, mais enfin, ont affirmé qu'ils étaient contre sa politique.
C'est une série qui a commencé sous Obama, donc c'est une série qui se voulait le contrepoint de cette présidence, en se disant, mais si on prenait le contrepoint de la présidence Obama, si on inventait vraiment quelque chose chose d'obscur et de terrible, ça donnerait Underwood. Et puis Trump est arrivé, donc il fallait effectivement rappeler que la série n'était pas là pour lui dérouler le tapis rouge, mais au contraire pour mettre en garde contre ce type de présence. Et puis, de manière assez subtile, Robin Wright a déclaré il y a un an et demi, deux ans, qu'ils étaient embêtés pour les scénarios de la saison 6 parce que Trump leur avait piqué toutes leurs idées.
Le président élu, Garrett Walker, est-ce que je l'apprécie ?
Non.
Est-ce que j'ai confiance en lui ? Là n'est pas la question. Tout politicien qui recueille 70 millions de votes touche à quelque chose de plus grand que sa personne, de plus grand que moi, même si ça me fait mal de l'admettre. Regardez ce sourire de vainqueur, ce regard confiant. J'en ai très tôt fait mon poulain et j'ai su me rendre indispensable. Après 25 ans au Congrès, j'arrive à savoir dans quel sens souffle le vent. Ah, Jim Matthews, son très honorable vice-président, ancien gouverneur de Pennsylvanie. Il a fait son devoir en nous apportant l'état clé de voûte. Merci à lui. Maintenant, ils vont le remettre au placard. Mais il a l'air satisfait de son sort, non ? Pour certains, il n'y a que la taille du fauteuil qui compte. Linda Vasquez, chef de cabinet Walker. Je l'ai fait engager. C'est une femme excellente. Une Latina excellente. Mais le plus beau dans tout ça, c'est qu'elle est plus coriace qu'une vieille carne. Trois fois excellent. Il ne suffit pas d'avoir les clés de la Maison Blanche. Encore faut-il mettre un Cerbère devant la porte. Quant à moi, je ne suis que le coordinateur de la majorité parlementaire. Je dois faire avancer les choses dans un congrès asphyxié par la mesquinerie et la lassitude. Mon travail consiste à nettoyer les tuyaux pour dégager les bouchons. Mais je n'aurai plus à jouer les plombiers bien longtemps. J'ai fait mon temps et j'ai misé sur le bon cheval. D'un an. Bienvenue à Washington.
Et oui, bienvenue à Washington, dit ironiquement Underwood, dès le premier épisode dont on vient d'entendre un extrait, épisode où il se propose de jouer le monsieur loyal du petit théâtre du pouvoir. Il a toutes les clés de la politique washingtonienne et il se propose finalement de l'expliquer aux téléspectateurs.
Bah, d'une part, on a entendu un peu de générique là, avec un générique un peu militaire. Il y a des trompettes et il y a de la grosse caisse. Oui, il y a une forme très intéressante dans la manière dont c'est filmé. C'est que il y a beaucoup de regards caméra de Underwood qui s'adresse vraiment aux spectateurs.
Surtout au début, dans les premières saisons. D'ailleurs.
Oui, dans les premières saisons, ça s'atténue. Après, il y a aussi Claire Underwood qui aura son regard caméra. Enfin bon, ils vont jouer un peu avec ça. Donc ça casse le quatrième côté, ça casse le quatrième mur du théâtre et donc ça nous fait entrer dans l'esprit du personnage, qui est un esprit tordu, en espérant que quand il s'adresse à nous, il dit la vérité, ce qui est aussi une autre question. Mais le procédé est intéressant parce qu'il nous rend complices en réalité, il nous enrôle dans les mauvaises actions d'Underwood, parce que toute la jubilation du personnage, enfin toute la jubilation du spectateur, et c'est pour ça que la série a aussi fonctionné, c'est d'être allié d'un type infréquentable et de voir s'il va gagner. C'est-à-dire qu'on veut qu'il réussisse. On est avec Underwood, on n'est pas avec ses adversaires, dont d'ailleurs les activités ne sont pas vraiment filmées, sauf à la sixième saison. Et donc en fait, il y a une jubilation au moment où le plan incroyable qu'il va mettre en place, dont on n'a d'ailleurs pas forcément tous les éléments, va marcher et où les adversaires vont tomber. Et donc non seulement nous sommes complices, mais c'est très intéressant pour, évidemment, nous faire entrer dans le monde politique, donc dans ce monde politique un peu tordu qui est celui de ce Washington de House of Cards. C'est intéressant pour comprendre comment on manipule les gens, comment on monte une stratégie, comment on fait tomber un adversaire et comment on va pousser des petites pièces, envoyer des choses, faire des coups à plusieurs bandes jusqu'à ce que ça marche. Et quand ça marche, le spectateur est content et donc ça fait de nous des complices objectifs de Frank Underwood et donc ça interroge évidemment notre propre moralité de spectateur. Pourquoi est-ce que nous jubilons à la défaite de gens qui n'ont rien demandé et qui sont écrasés par un personnage absolument épouvantable ? Là, ça pose évidemment une question intéressante, ça nous met dans une situation très inconfortable et que pourtant nous pouvons aimer comme spectateur.
Donc il joue à l'homme de cour. Pour reprendre le titre de l'ouvrage de Balthazar Gracian, que vous citez d'ailleurs dans votre livre, L'homme de cour qui, au fond, ne s'intéresse pas à la politique. Il y a très peu de politique dans House of Cards. Il n'y a que la lutte pour les places, hein, c'est ça.
Oui, en fait, il faut bien comprendre, en sciences politiques, on appelle ça un agenda politique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs agendas politiques. Il y aurait un agenda politique qui serait œuvrer pour le bien commun et faire des très bonnes politiques publiques. Et puis, en dessous, en réalité, un peu masqué de ce grand agenda politique du bien commun, il y a l'agenda politique de chaque homme politique pour lui-même. Et en fait, Underwood poursuit cet agenda politique qui n'a rien à voir avec la grande vie politique et la vie de la cité, mais qui a tout à voir avec sa propre survie, ses propres ambitions, le poste qu'il a envie d'avoir, et toute l'histoire, c'est qu'il est, il attend d'être nommé, il s'attend à être nommé ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État, puisqu'il a soutenu le président et qu'il a permis son élection. Et donc, dans le jeu de cour, théoriquement, quand on a soutenu le bon cheval et qu'on lui a rendu service, on est gratifié. Donc on a une récompense. Cette récompense ne venant pas, ça lance une grande machine vengeresse.
Every kitten grows up to be a cat. They seem so harmless at first, small, quiet, lapping up their saucer of milk. But once their claws get long enough, they draw blood, sometimes from the hand that feeds them.
Ne gâchez pas une minute à pleurer, mademoiselle Barnes. Les chatons deviennent forcément des chats. Ils paraissent inoffensifs au début, tout petiots, tout sages, lapant un peu de lait dans une coupelle. Mais une fois que leurs griffes sont assez longues, ils lacèrent jusqu'au sang. Parfois même ceux qui les nourrissent.
For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule. Hunt or be hunted.
Pour ceux d'entre nous visant le sommet de la chaîne alimentaire, aucune pitié n'est permise. Un seul principe prévaut. On chasse ou on est chassé.
Des œuvres sur France Culture. Nous parlons de House of Cards avec vous, Emmanuel Taïeb, et cet extrait du premier épisode de la saison 2 où on l'entend, la politique se confond avec le crime. C'est là où on rejoint Machiavel. Tous les coups sont permis. Underwood est un grand lecteur, enfin en tout cas on l'imagine, de Machiavel.
Oui, il y a une allusion dans la série britannique sur le fait que le livre préféré de Urquhart, c'est Machiavel, enfin c'est Le Prince. On s'en serait douté. Là, dans l'extrait
comme
que vous avez passé...
Comme pour beaucoup de dirigeants hein, qui ont lu Machiavel.
Oui, qui le lisent comme un manuel de commandement, ce qui est, ou un manuel de gouvernement, ce qui est une erreur, mais c'est un autre problème. On en reparlera peut-être. Hein. C'est une suite de cas spécifiques. Hein. Machiavel, c'est pas non plus un manuel de commandement intemporel ou pérenne. Mais en tout cas, là, dans l'extrait que vous avez passé, donc c'est le même dialogue en français et en anglais, ça renvoie à la vision du monde politique, à la vision de la politique de Underwood. Donc on voit très bien qu'il y a aucune importance n'est accordée à l'intérêt général. Il a une vision complètement prédatrice du monde politique, de son activité politique, et donc évidemment cette représentation-là, c'est ça qui l'amène à faire tout ce qu'il fait. Et donc il va se conduire effectivement de manière extrêmement machiavélienne, au sens où ce qui va l'intéresser, ça va être de poursuivre son propre agenda, et donc d'être chasseur, et de ne jamais être chassé dans cette vision absolument darwinienne, hein, on est dans un phénomène de darwinisme politique, c'est la lutte pour la survie, c'est le struggle for life à l'intérieur du monde politique, et où effectivement il va falloir non seulement l'emporter, remporter le poste qu'on a absolument désiré, et s'il faut le faire, écraser absolument tout le monde sans se poser aucune question. Donc l'idée effectivement de Machiavel, qui est pas exactement la fin justifie les moyens, mais qui est oui, tous les coups sont permis, ou en tout cas je joue les coups nécessaires, hein, je me soumets à la nécessité du moment, effectivement Underwood va être dans cette logique machiavélienne de dire ce qui m'importe c'est de jouer le bon coup pour l'emporter et pour suivre mon agenda personnel. Et donc les conseils qu'il donne là ici à Zoe Barnes vont complètement dans ce sens.
Mais lui il est très fort, c'est un grand professionnel justement de ça. Qu'est-ce qui lui donne sa puissance? Comment est-ce qu'on peut essayer de cerner ce qui fait qu'il va réussir? Alors vous avez raconté tout à l'heure l'espèce de moment séminal quand il a aidé le premier président à arriver au pouvoir. On lui a promis qu'il serait secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères. On ne lui donne pas ce poste et donc il décide de se venger. Mais d'où vient qu'il parvient si aisément d'une certaine manière, enfin ce n'est pas si facile, mais qu'il parvient tout de même à ses fins presque toujours.
Il y a plusieurs hypothèses. D'abord, évidemment, c'est pour les besoins de la dramaturgie. Donc, on lui a collé des adversaires un petit peu plus faibles que lui ou qui le voient pas venir. Deuxième hypothèse que moi je développe, c'est qu'il aurait une nature ou une nature animale qui prédatrice, qui lui permettrait de flairer, de sentir ses adversaires et donc de comprendre la nature humaine et de s'appuyer là-dessus, hein, la flatterie, appuyer sur tel ou tel élément qui va faire tomber un adversaire. Et puis l'autre, une dernière hypothèse, mais c'est pas forcément la dernière de manière absolue, c'est qu'il a des leviers que d'autres hommes politiques et que ses adversaires n'ont pas, parce qu'il a été pendant des années ce qu'on appelle chief whip. Alors c'est le whip, c'est le fouet. Il n'y a pas exactement d'équivalent dans le système politique français. C'est on va
faire
dire
faire voter la majorité.
Ouais, c'est le chef de la majorité. C'est celui qui va s'arranger pour qu'il y ait une discipline de vote, parce que dans les régimes parlementaire dans le cas britannique, il y a pas, et c'est le cas aussi au Congrès américain, il y a pas une discipline de vote absolue, il y a pas une discipline partisane de vote. Donc vos députés ne votent pas comme un seul homme. Donc à chaque fois, il faut aller attraper les voix, il faut aller à la pêche aux voix. Et pour ce faire, on peut imaginer que quand il était chief whip pendant des années, enfin c'est suggéré, il a des dossiers sur les gens. Et donc si l'action, le coup politique ne marche pas, il va falloir en passer par l'infra-politique. Et l'infra-politique, ça va être le chantage, les compromissions, un tel qui a été pris avec une un tel qui a été arrêté en état d'ébriété. Et donc, il a des leviers, parce que si on ne se soumet pas, il va tout dévoiler. Et la peur du scandale, évidemment, entraîne tout le monde à lui obéir.
Allez, on va continuer de parler avec vous de House of Cards, Emmanuel Taïeb. Mais pour l'heure, c'est le moment de notre carte blanche du jeudi.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une carte blanche proposée aujourd'hui par vous, Nathalie Frolov. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes professeure en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris et vous venez nous parler non pas directement de House of Cards, mais en miroir de The West Wing, la série d'Aaron Sorkin.
Oui, The West Wing, dont le titre en français est à la Maison Blanche, peut apparaître comme effectivement le parfait miroir inversé de House of Cards. Au cynisme de cette série répond en effet la foi en la démocratie, tout comme au manipulateur et machiavélique Frank Underwood fait écho Jed Bartlett, un président intelligent et très humain. Donc The West Wing a été créé par Aaron Sorkin et diffusé de 1999 à 2006 sur NBC. C'est une série qui met en scène, en fait, au cours de quasiment 150 épisodes, un président démocrate bienveillant, entouré de ses conseillers à la Maison Blanche. Alors pour comprendre ce qu'est la démocratie libérale, ses débats, ses fonctionnements dans les moindres détails, le rythme fou aussi, mais passionnant, que vivent les hommes et les femmes politiques, cette série, c'est un modèle. Tout spectateur, qu'il soit américain ou français, peut avoir l'impression de voir en acte ce qu'expose Tocqueville dans De la démocratie en Amérique. Je pense en particulier au chapitre 8 de la première partie du tome 1. Ce qui fascine toujours quand on lit Tocqueville, c'est son ambition. Comme le dit Françoise Mélogneau dans son ouvrage de 2006, Tocqueville souhaite d'autres lecteurs que le public savant. Il vise le public des gens du monde qui sont aussi les gens d'influence et au-delà, tous les hommes des démocraties auxquels il prodigue moins des leçons que des avertissements, tout en offrant une véritable théorie de la démocratie. Donc The West Wing peut apparaître comme une très belle illustration, fictive, mais certes très réaliste, de cette réflexion tocquevillienne sur la démocratie.
Alors en quoi cette série est-elle justement cette parfaite représentation de la démocratie ?
Alors je vais prendre un exemple, c'est l'épisode 15 de la saison 3 intitulé Hartsfield Landing, échec et mat en français. Alors en un seul épisode, on a plein de fils narratifs qui s'entremêlent avec une très grande virtuosité. Alors même d'abord qu'un conflit contre la Chine menace dans le détroit de Taïwan, le président Bartlett joue deux parties d'échecs différentes, à la fois contre Toby Ziegler, personnage qui semble tout droit sorti d'un roman de Philip Roth, dont vous avez parlé mardi, et contre son adjoint aussi Sam Seaborn. On a ici une métaphore de la guerre qui est vue à travers, je dirais, la complexité du jeu d'échecs, c'est assez transparent. Mais Aaron Sorkin, il va plus loin, il va ajouter deux autres fils narratifs. Le premier reprend le motif du conflit, mais de manière puérile et ludique. C'est un conflit qui oppose en fait deux personnages de la Maison Blanche. Bon, de manière assez comique, c'est vraiment un contrepoint intéressant. Quant au dernier fil narratif, en fait, il parcourt tout l'épisode en arrière-plan. En effet, au moment de ces différents événements, une primaire se tient dans une petite ville de New Hampshire, Hartsfield Landing. C'est un village de 63 habitants, où on a 42 votants, et en théorie, ce village aurait prédit le nom de celui qui allait remporter la présidentielle depuis plus d'un siècle. Comme ils sont très peu nombreux, ils sont autorisés à voter dès minuit, et le dépouillement a lieu juste après, et donc les personnages de la série attendent le résultat. Cette primaire est dramatisée, elle devient un vrai enjeu, il y a un vrai suspens qui est créé ici parce qu'il y a deux votants qui ne savent plus pour qui voter. Et donc on a une assistante du chef du cabinet qui passe tout l'épisode à essayer de les convaincre et in fine c'est le chef du cabinet qui intervient, qui leur dit « mais c'est pas grave, vous votez, c'est ça le plus important, quel que soit votre choix, votez ». Ce qui est intéressant ici, c'est que le petit village de Hartsfield Landing, il n'existe pas. Il n'y a pas non plus une telle primaire qui ressemble ici beaucoup plus à une sorte de répétition générale de l'élection présidentielle, mais qui aura lieu que dans la quatrième saison, c'est-à-dire la saison suivante. On voit ici qu'Aaron Sorkin, il invente en quelque sorte les conditions idéales d'une élection en faisant comme une expérience de laboratoire. Comme l'indiquait le New York Times il y a une dizaine de jours, cet épisode vient d'être rejoué par toute l'équipe de la série sur une scène de théâtre. Ça a été filmé et diffusé sur HBO. On voit qu'Aaron Sorkin, il y déploie vraiment sa virtuosité, aussi bien dans la structure narrative que dans les dialogues, comme il a pu le faire aussi dans The Social Network ou dans son dernier film, Les 7 de Chicago. Donc on pourrait croire que The West Wing, c'est une série peut-être un peu mièvre, un peu datée, à l'instar des films de Capra. Mais comme l'expliquait Serge Chauvin dans cette émission lundi, Capra est bien plus complexe, de même que The West Wing, ce dont témoigne justement l'épisode dont j'ai parlé. Les débats, le vote, ils sont bien sûr premiers, mais la démocratie est sans cesse menacée, fragilisée par des conflits complexes et immémoriaux. Il est vrai qu'on aimerait tous avoir un Jed Bartlett comme président, celui qui arriverait à tout maîtriser. Et il le dit lui-même, il parle de « see the world board », comme il le dit justement dans cette partie d'échec à Sam Seaborn. Il aimerait être celui qui justement peut adopter ce point de vue de Dieu, une espèce d'exaucement qui clôt de la démocratie en Amérique de manière magistrale.
Eh bien, merci beaucoup Nathalie Frolov pour ce contrepoint avec The West Wing en français à la Maison Blanche. À très bientôt. C'est toujours la Compagnie des œuvres que vous écoutez sur France Culture, dernier temps de cette série d'émissions américaines qui nous parle de politique. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Taïeb pour parler de la série House of Cards, centrée sur le terrible couple Underwood.
There is no solace above or below. Only us, small, solitary, striving, battling. I pray to myself, for myself.
Il n'y a pas de transcendance, pas de Dieu dans le monde des Underwood, comme le dit Frank dans cet extrait. Il se prie lui-même, il prie pour lui-même, mais il n'a pas besoin de prier à un quelconque Dieu. C'est une caractéristique assez forte du personnage Emmanuel Taïeb.
Oui, c'est même une caractéristique de toute la série, et c'est extrêmement subversif dans une Amérique, disons, traversée par la question religieuse, ou en tout cas qui pense que Dieu est à ses côtés, et qu'il y aurait une destinée manifeste des États-Unis pour porter la démocratie de manière universelle, que les États-Unis seraient une nouvelle Jérusalem, proposer un personnage non seulement athée, mais même très anticlérical et très anti-religieux, qui ne prie que pour lui-même, hein, qui est l'extrait que vous avez passé, ça c'est quand même assez subversif et assez culotté. Ça renvoie aussi à l'idée que si Dieu est mort, tout est permis. Donc effectivement, ce qui compte, c'est ce qu'on va faire de sa vie sur Terre, et la question de l'au-delà, la question de la rédemption, la question du jugement dernier, elle est complètement évacuée. Et donc c'est ça aussi qui permet à Underwood de faire le mal, c'est-à-dire qu'il ne répondra jamais de ses actes devant qui que ce soit. Et donc non seulement il prie pour lui-même et pour son propre agenda politique, mais Il met Jésus au défi. Il a à plusieurs. Il fait même, enfin, une croix avec Jésus, tombe devant lui. Il n'est pas du tout inquiet. La statue de Jésus est brisée. Il prend l'oreille de Jésus et il dit :« J'ai enfin l'oreille de Dieu. Je peux enfin parler à l'oreille de Dieu. » Donc il est vraiment dans une posture absolument athée. Donc là, effectivement, c'est assez révolutionnaire. Ça renvoie aussi à Machiavel, qui avait des perspectives assez proches. Il y a beaucoup de critiques de l'Église comme pouvoir s'occupant des relations temporelles. Enfin, comme pouvoir s'occupant du politique, ce qui n'était pas la fonction de l'Église, dans le Machiavel du discours sur la première des quatre de Tite-Live, qui est l'autre livre à côté du prince. Et effectivement, l'une des lectures de Machiavel, qui a été proposée notamment par Quentin Skinner, c'est de dire qu'il y a un philosophe, un historien des idées anglais, c'est de dire, au fond, Machiavel ne se pose jamais la question de ce qu'il adviendra ensuite dans l'au-delà du prince qui a commis toutes ces cruautés. Et effectivement, la question d'une expiation ou de rendre compte de ses péchés, c'est une question qui est évacuée. Donc à partir du moment où on évacue la question religieuse, on évacue des formes de morale, et donc à ce moment-là, effectivement, on ne s'intéresse qu'à ce qui se passe sur Terre, sans avoir jamais à répondre de ses actes.
Donc c'est un personnage qui n'est pas tout à fait réaliste par rapport à la politique américaine, c'est ce qu'on comprend de ce que vous dites aussi, Emmanuel Taïeb. Il y a un côté laboratoire, expérience de laboratoire, comme le disait Nathalie Frolov dans sa chronique au sujet de The West Wing. On pourrait dire la même chose de House of Cards. Les scénaristes, les showrunners mettent un petit peu leur pion dans des situations qui leur permettent de faire cette expérience, de voir ce qui pourrait se passer dans la réalité. Il y a un côté sociologie un petit peu aussi.
Oui, sociologie, on va dire sociologie fantastique, ou ce qu'on appelle nous les fictions de sciences sociales, c'est-à-dire qu'effectivement on va ici injecter des hommes politiques meurtriers, voire, moi c'est l'idée que je développe dans le bouquin, des animaux ou des vampires.
Alors pourquoi des vampires?
Parce que d'abord ils ont une espèce de soif de sang, ils ont une espèce de soif de pouvoir qui est rappelée en permanence. Il y a plein d'éléments dans ce qu'on appelle la diégèse, c'est-à-dire le contenu même de la série, le contenu même du film, qui renvoie à l'idée de l'animalité et du vampirisme.
Par exemple.
Il y a beaucoup de séquences où la question du sang est centrale. On voit Underwood qui ouvre un robinet, il y a du sang qui coule. On voit Underwood qui va lécher la blessure sur la main de son garde du corps et l'engager ensuite dans une relation sexuelle à trois avec ce garde du corps et sa propre femme, Claire Underwood. Underwood va tuer sa maîtresse en la précipitant sous les rails du métro, mais assez étrangement, il n'apparaît pas sur les caméras vidéo, et on se souvient que les vampires ne se reflètent pas. Il ne dort quasiment jamais.
Il ne prend jamais de douche. Il court la nuit, il se retrouve pour parler le soir dans une maison qui est tout de même assez sombre.
La maison ressemble à un manoir, on les voit énormément vivre la nuit. Le générique de la série commence dans la journée et se termine dans la nuit. Je le disais, on les voit pas prendre de douche parce que les vampires n'aiment pas l'eau. Ils vivent souvent dans la cave, enfin lui il fait du sport dans sa cave. Il a l'air d'être immortel, il vieillit assez peu, on lui a un peu blanchi les cheveux, mais voilà. Il y a une séquence où on lui tire dessus et donc après on lui fait une IRM et il y a une fourche, le rayon laser sur sa tête ressemble à une fourche diabolique. Il y a plein d'éléments qui renvoient au genre horrifique, vraiment, de manière très appuyée dans les deux séries, la série britannique et la série américaine. Donc c'est vraiment explicite, et encore plus dans la sixième saison où il y a des allusions à Rosemary's Baby de Polanski, où il y a des allusions, Claire Underwood est enceinte et elle se demande si ce qu'elle porte n'est pas le fruit du démon. Donc il y a, quand on dit thriller politique, il faut vraiment le prendre au sérieux dans ce sens-là.
C'est là où la série est pour vous d'abord une série fantastique, or elle n'est pas du tout analysée comme ça, elle n'est pas ressentie comme ça par les téléspectateurs.
Oui, elle est ressentie comme une série plausible, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'éléments qui sont réalistes et beaucoup d'éléments qui sont familiers. C'est le principe d'une création, c'est qu'il faut que le spectateur assez vite trouve ses repères. Mais en réalité, il y a énormément d'éléments qui sont injectés à l'intérieur de la série, qui laissent à penser qu'elle est absolument fantastique, et il y a des apparitions, il y a des fantômes, il y a cette présence du sang, il y a des séquences qu'on comprend pas très bien si on prend pas cette hypothèse, hein, où l'idée c'est que Underwood c'est un animal sauvage mais qui a réussi à se civiliser, et donc il y a une séquence où il croise quelqu'un qui pousse des hurlements devant la Maison Blanche et qui est une espèce pour le coup d'homme sauvage qui ne se serait pas civilisé, donc il y a une connivence entre les deux, et puis Underwood l'apaise et Underwood lui fait comprendre que justement parce qu'il ne s'est pas civilisé, personne ne va l'entendre. défendre et que pour dynamiter le système de l'intérieur ou en tout cas pour assouvir sa propre soif de sang, il va falloir se civiliser, il va falloir se cacher comme animal féroce et entrer dans le monde politique pour assouvir cette soif de sang, mais en le faisant discrètement, sans jamais être arrêté, parce que le monde politique, ça aurait pu être le monde de l'entreprise, le monde politique, c'est le lieu où on va effectivement pouvoir écraser les autres, puisque c'est la fonction de l'activité politique, en tout cas dans sa dimension jeu de cour.
Oui, c'est intéressant que vous convoquiez le monde de l'entreprise, parce que ce qu'on comprend aussi, c'est que la série aurait pu se passer dans un autre milieu que le milieu politique, mais néanmoins, c'est le milieu politique qui a été choisi, probablement parce que c'est plus puissant pour le téléspectateur d'imaginer qu'il est dirigé par ce genre de personnage. Mais la série n'est pas réellement sur la mécanique politique.
Non, effectivement, c'est-à-dire que la politique ou le milieu politique a été choisi parce que ça va renvoyer à la question, au questionnement sur la démocratie qui a été évoqué pendant la chronique, ça va renvoyer à la question de la tyrannie, du désir d'avoir, de quel type d'homme politique nous avons besoin. Est-ce que nous avons besoin d'un tyran qui est très malin parce que les relations internationales sont très compliquées et que quand il faut dealer avec un homme politique de type Poutine, eh ben il va falloir être très rusé, ou est-ce qu'au contraire nous voulons quelqu'un qui va être un sage, de vieux sage de la tribu comme Jed Bartlett de The West Wing. Donc ça pose cette question, mais la question, le monde de l'entreprise n'est pas absent parce que à plusieurs reprises les adversaires d'Underwood sont des grands capitaines d'industrie qui sont là pour le coup non pas corrompus par le pouvoir mais corrompus par l'argent et qui veulent se mêler de politique.
Et Claire Underwood, au début de la première saison, est une femme qui dirige une organisation non gouvernementale.
Oui, ce qui laisse à penser qu'elle est pétrie d'humanitaire ou d'humanitarisme, ça va vite se révéler factice. Elle est très violente dans la manière dont elle gère ça. Et en fait, en réalité, elle est intéressée par la chose politique. Et donc, elle veut très très vite entrer en politique et laisser tomber son ONG.
That I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion.
That I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion.
And that I will well.
One heartbeat away from the presidency, not a single vote cast in my name. Democracy is so overrated.
Office on which I am about to enter, so help me God.
And that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter, so help me God.
Congratulations, Mr. Vice President.
Épisode 2, saison 2, c'est le moment où Frank Underwood devient président des États-Unis alors qu'il n'a jamais été élu. Il y parvient simplement en intriguant. Ça, c'est une pique au système démocratique américain, selon vous, Emmanuel Taïeb?
C'est même plus qu'une pique, c'est une alerte très très forte sur les failles des institutions, en tout cas quelques failles des institutions américaines qui permettent d'avoir quelqu'un qui peut devenir président sans jamais avoir été élu. Et en fait, la faille, c'est qu'effectivement, si on atteint la vice-présidence parce qu'on n'a pas été colistier du président, que le vice-président est parti pour des tas de raisons, c'est le président qui va nommer son vice-président, quelqu'un qui n'a pas été élu. Si le président est empêché ou assassiné, c'est le vice-président qui devient mécaniquement président, sauf que ce vice-président a pu ne jamais être élu. Et c'est exactement ce que va faire Underwood. Donc on se retrouve, democracy is so overrated, c'est ce qu'il dit. La démocratie est très surévaluée. Côté. Et donc on peut se retrouver avec une situation invraisemblable d'un président qui n'a pas été élu et qui a donc tous les leviers de pouvoir en ayant absolument contourné la démocratie. Et toute la série montre que moins on revient au peuple pour trancher les conflits, plus on les tranche entre soi à l'intérieur du petit microcosme du microcosme de Washington, mieux c'est. Il faut jamais revenir au peuple parce que le peuple, c'est l'élection et donc c'est très dangereux parce qu'on pourrait perdre le pouvoir. Donc là, il y a effectivement une dénonciation d'une faille institutionnelle très très forte dont Underwood est l'incarnation.
Alors, il est démocrate Underwood, il n'est pas républicain. Pourquoi ce choix selon vous de la part des scénaristes?
Peut-être pour prendre le contre-pied des clichés qui sont associés à la vie partisane américaine où les démocrates seraient progressistes et inattaquables et les républicains conservateurs et rétrogrades. Mais dans la série britannique, Urquhart est conservateur. Donc ils y sont vraiment allés. Il est très méprisant. Il critique en permanence les aides sociales, etc., les plus pauvres. Cela dit, la série désamorce ça elle-même parce qu'il y a une réplique où à un moment, un des personnages dit à Underwood, un démocrate en Caroline du Sud, c'est une fiction. Donc la série rappelle à quel point sa propre construction est elle-même une fiction. En réalité, l'étiquette partisane n'importe pas. La conduite d'Underwood n'est pas dictée par une appartenance partisane. Sa circonscription ne l'intéresse pas du tout. La petite vie politique basique où il faut aller inaugurer les chrysanthèmes, comme on dit, ça l'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment la lutte pour la survie. Donc ils ont apposé une étiquette démocrate, peut-être pour là aussi faire un pied de nez à The West Wing. Hein. Les séries se répondent, donc on a l'impression qu'on serait dans la continuité d'un jet de Bartlett, mais effectivement, on est en présence de son exact contraire.
Oui. Alors, vous l'avez dit, l'intérêt, le moteur, finalement, pour Underwood et sa femme, c'est la survie. Et c'est assez étonnant parce que il ne cherche pas réellement à se sentir bien quelque part. Il cherche uniquement à se maintenir. Et pour se maintenir, il faut des ressources très importantes et en fait ça n'est pas très agréable. Visiblement, ils ont quelques moments de répit, mais on peut se poser la question en effet de ces étranges personnages qui ne trouvent jamais le repos parce que ils doivent se maintenir et que c'est leur seul objectif.
C'est une quête sans fin, une fois qu'on est au sommet, on ne peut que redescendre et donc ça les inquiète. Il y a à la fois leur propre survie comme homme politique mais aussi leur survie en tant que legacy, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont rester dans l'histoire et est-ce qu'ils vont marquer cette présidence et marquer la présidence américaine. Là où les séries en tout cas sont intéressantes, c'est que la vanité de cette quête de pouvoir est aussi très bien manifestée, c'est-à-dire que Urquhart et Underwood s'épuisent dans ce jeu politique permanent puisqu'il n'y a plus que ça, et donc en plus ils sont plutôt habiles, ils gagnent assez souvent, mais à quoi bon une fois qu'on a le pouvoir, si on n'en fait rien, qu'est-ce qu'on fait? Si la seule crainte c'est de chuter, alors effectivement on va s'épuiser. Et donc la dernière saison de la série britannique et on va dire les deux dernières saisons de la série de Netflix sont aussi des moments, je disais un peu crépusculaires tout à l'heure en début d'émission, il y a cette dimension-là, c'est-à-dire ça ne peut que s'effriter parce qu'il va y avoir un vieillissement, parce qu'il va y avoir une fatigue physique, parce que c'est épuisant et donc... comment on fait pour en sortir? Comment on est délivré de ça? Et probablement, c'est ce que les séries suggèrent, la seule délivrance, c'est la mort. Sinon, on n'y arrive pas.
Donc il
n'y
a pas de plaisir dans cette série.
Il y a un plaisir de destruction, mais il n'y a pas de plaisir sur l'occupation du pouvoir qui, en réalité, ne fait qu'occuper le cerveau et ne fait qu'amener des coups de plus en plus violents et amener de plus en plus de meurtres. Donc effectivement, les cadavres s'empilent dans la série parce que probablement, la prémisse est fausse. C'est-à-dire que Underwood ne méritait peut-être pas de devenir ministre des Affaires étrangères. Et donc, il avait atteint son meilleur poste en étant chef de la majorité. À partir du moment où il a prétendu à quelque chose d'autre, il a enclenché une machine qu'il a lui-même dépassée et il a corrompu tout le système à ses propres fins. L'épuisement vient aussi du dépassement de son seuil de compétence.
Le plaisir, en tout cas, il n'est pas tellement charnel dans cette série. Vous le soulignez, Emmanuel Taïeb, dans votre livre. Vous dites que c'est une ligne isolé de l'évolution que la ligne créée par que la lignée même devrait-on dire créée ou plutôt non créée par les Underwood.
Il y a une insistance très forte dans la série américaine et aussi dans la série britannique pour dire que les Underwood n'ont pas de descendance, donc ils sont seuls de leur espèce, que peut-être même c'est souhaitable qu'ils n'aient pas de descendance. La saison 6 vient un petit peu modifier ça, mais en suggérant que c'est probablement le démon d'un démon dont va accoucher Claire Underwood. Donc s'il y a une lignée, c'est une lignée épouvantable comme celle des parents. Donc ça reste effectivement une lignée isolée qui ne s'est pas reproduite. Mais effectivement, il y a dans le conflit entre la libido sexuelle et la libido de commandement, la libido sexuelle est vraiment très très faible. C'est-à-dire que c'est vraiment pas le moteur. Voilà, Underwood a une sexualité, mais très très
du
faible.
Sang justement pour pouvoir avoir envie de rapport sexuel.
Oui, c'est comme ça qu'il se recharge. C'est comme ça qu'il fonctionne. Effectivement, si c'est un vampire ou un animal, ça va plutôt être du sang que de la sexualité. Donc on n'est pas en présence d'un prédateur sexuel. Pour le coup, là, Trump avec toutes ses remarques graveleuses, etc., est vraiment incarne une autre figure. Donc c'est une série où la sexualité est vraiment faible.
Ce qui le rend moins humain et plus vampire encore.
Oui, et ce qui le refroidit aussi, si j'ose dire. Et les vampires sont froids, les vampires sont morts, hein, évidemment. Et puis ça le rend extrêmement distant. Mais ça permet aussi de montrer, voilà, que c'est pas du tout son moteur. Il est vraiment pas sur ça.
Et Claire Underwood, c'est un personnage fascinant quand même.
En fait, c'est vraiment le premier ou peut-être le personnage le plus intéressant de la série parce qu'il est fait de plein d'ambiguïtés. Elle aurait pu avoir une toute autre vie. Elle dit à plusieurs reprises qu'elle a renoncé à une vie plus confortable, pour le coup plus romantique, plus charnelle, plus sexualisée. Mais elle a senti visiblement qu'elle avait elle aussi une revanche à prendre. Là, en l'occurrence sur les hommes, elle avait été agressée dans sa jeunesse. Elle a été violée à plusieurs reprises, en tout cas au moins une fois. Et puis il y a eu d'autres agressions. Et donc elle a cette espèce de vengeance à prendre à la fois sur les hommes, mais aussi sur son destin. Elle vient d'une famille de patriciens, donc c'est pas la revanche sociale, mais elle a senti qu'elle avait aussi cette nature-là, cette nature destructrice, cette nature violente, et donc à plusieurs reprises, l'idée d'un pacte entre les deux personnages est rappelée, ils le disent eux-mêmes, et en fait, Underwood va la sortir de ce destin romantique qu'elle aurait pu avoir, pour l'amener ailleurs, et pour qu'elle puisse elle-même assouvir cette soif de sang et cette soif de pouvoir. Elle entre en politique jusqu'à la présidence. Donc effectivement, elle est à plusieurs reprises tentée. Hein, elle prend un amant, elle essaye d'avoir une vie un peu différente et de sortir.
Mais quand elle prend un amant et qu'ils sont en train de faire l'amour, elle lui dit qu'il faut quand même qu'il se dépêche parce qu'elle a du travail. Donc c'est ça.
Alors
aussi,
ça, c'est Claire Zoe Underwood. Barnes. Mais en tout cas, Claire Underwood va tuer l'un de ses amants pendant l'acte sexuel. Donc on voit aussi que là, pour le coup, il y a le côté menthe religieuse. En tout cas, on reste sur la métaphore animale. Et puis elle maltraite l'un de ses amants qui avait osé se rebeller.
Et ben on terminera sur cette image. Merci beaucoup Emmanuel Taïeb. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques de Lyon, membre de l'IUF, et que votre ouvrage House of Cards, le crime en politique, a été publié aux éditions des Presses universitaires de France. C'était la Compagnie des œuvres avec Laurence Millet, Lila Bozès, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Romain Billet et Marie-Claire Oumabadi. Et dans un instant, on retrouve les sciences sur France Culture.